Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
L'anthropologue Georges Balandier est mort hier à l'âge de 95 ans, grand spécialiste de l'Afrique. Il est de ceux qui ont contribué à faire connaître ce continent, à inventer également la notion de tiers-monde, la notion également de sous-développement sur laquelle il a beaucoup travaillé. Bonjour Marc Auger.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, anthropologue et écrivain. Vous étiez l'ami de Georges Balandier. Vous êtes également anthropologue, comme je l'ai dit. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler ce qu'est un anthropologue ?
Oui. Alors, anthropologue, au début, c'était l'anglais pour ethnologue. C'était le mot anglais pour ethnologue. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur une société limitée, tout seul, et qui essaie de l'étudier sous toutes ses facettes. Et puis, le terme a pris de l'ampleur. L'anthropologue essaie de comparer. Et donc, il a toujours un travail d'ethnologue au départ, mais il y a une visée comparative, et on peut parler ainsi de l'anthropologie de la parenté ou du pouvoir, des systèmes politiques, etc.
Et donc, c'est ce qu'a fait sa vie durant Georges Balandier, en étudiant notamment un certain nombre de sociétés africaines et en les comparant. On écoute la voix de Georges Balandier, un dialogue avec Léopold Sédar Senghor. C'était le 15 juillet 1977. Ils étaient invités d'apostrophe de Bernard Pivot.
Si je prends mon cas, le verbe est toujours action. Vous voyez, par exemple, quand je suis né, on m'a appelé Sédar. On m'a appelé Sédar parce que j'avais un arrière-grand-père qui s'appelait Sédar. On m'a appelé Sédar aussi parce que j'étais chétif. Alors, Sédar, ça veut dire qui n'a pas honte. C'est un peu ironique. Tu n'as pas honte d'être si chétif et tu seras fort, tu n'auras pas honte. Vous voyez ? Donc, c'est un symbole et en même temps, c'est une action. On me fortifie en m'appelant de ce nom.
On entend la voix de Senghor discutant donc avec Georges Balandier au sujet du nom de famille. Ça, par exemple, c'est un sujet sur lequel Georges Balandier s'est penché lorsqu'il a étudié les sociétés africaines, Marc Auger.
Oui, bien sûr. Les noms de famille, c'est important. Et surtout dans ces régions du Sénégal. Le Balandier se disait anthropologue et sociologue, pour bien souligner le côté actuel de sa recherche. Parce que c'est vrai qu'il était critique à l'égard de l'ethnologie traditionnelle qui se cantonnait dans l'observation des faits ethnographiques sans tenir compte de la situation générale. Il est l'auteur du concept de situation coloniale qui a mis les choses en contexte et c'est, je crois, quelque chose qui a révolutionné les études africaines.
Oui, il faut expliquer pourquoi cela a révolutionné les études africaines, parce que dans le développement comparé, dans l'idée donc on va comparer la manière dont les sociétés évoluent, dont elles font leur transition d'une époque passée à une époque future, Marc Auger, il est essentiel de voir le poids de la colonisation et les facteurs qui ont pesé là-dessus.
Bien sûr. La situation coloniale est une situation très particulière et généralisée en même temps, puisque l'Europe a colonisé le monde entier, presque à l'exception de l'Asie. Il faut tenir compte, c'est ce que s'expliquait bien Balandier dans son article des cahiers internationaux de sociologie qui a fait du bruit et qu'il a repris dans Sociologie actuelle de l'Afrique noire. Il faut tenir compte de tous les facteurs qui font une situation de domination, mais qui a des effets divers selon les points. C'est une situation complexe et d'ailleurs, Balandier reprendra cela pour l'analyse des faits contemporains. C'est la complexité qui est intéressante. La domination des pouvoirs coloniaux a des effets gradués et différents selon les régions, selon les types de réactions que ça occasionne. C'est ainsi qu'il a étudié les messianismes religieux, etc., pour montrer que les pays colonisés n'étaient pas inertes, qu'il y avait des réactions qu'il fallait trouver. et qui faisait apparaître des phénomènes autres que les phénomènes de qu'étudiait l'ethnologie traditionnelle.
Et qui permettait également d'expliquer en quoi un type de colonisation permettait d'expliquer un type de société à venir après la colonisation.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, l'analyse se poursuit, parce qu'il est bien évident que, d'une part, les phénomènes de colonisation prennent d'autres formes, mais de domination existent toujours, et les difficultés des pays colonisés pour trouver des formes démocratiques, etc., sont liées à cette situation initiale.
On le voit particulièrement bien en Afrique, terrain sur lequel Georges Balandier a beaucoup étudié, ou en Amérique latine, où on est confronté également aux mêmes questions. Georges Balandier a beaucoup étudié cela, Marc Auger, et on voit dans quelle mesure des notions qui au début étaient des notions pionnières nous semblent naturelles, comme par exemple les post-colonial studies, les études post-coloniales, qui aujourd'hui sont vraiment l'alpha et l'oméga des études en anthropologie et en sociologie.
Oui, 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 effectivement. Balandier, de ce point de vue, a tracé un chemin original, parce que les post-colonial studies, c'est les Américains. Et il a insisté, il est passé à l'étude du monde en général, plutôt de la globalisation. Et je crois que c'est un chemin original qui permet de comprendre l'effet de domination indirecte et leurs effets complexes et divers.
On va continuer à rendre hommage à Georges Balandier en écoutant ses propos. Le voici parlant de son métier. C'était sur France 5 en février 2008.
J'ai vu comment, jusqu'où une civilisation peut aller dans la dégradation.
Au moment de la Shoah.
Avec la Shoah, avec les violences, avec la bombe, avec les violences qui étaient manifestées. Et je dois dire que j'ai éprouvé un besoin de mise à distance, de rejet de cette civilisation.
Et vous êtes parti où ?
Je suis parti à Dakar, après avoir eu une petite période littéraire dans l'entourage de Sartre, Camus, de Léris surtout, en fait, des temps modernes, enfin tous ces gens, toutes ces affaires-là. Bien. Et puis, arrivé, dès le commencement de mon premier séjour au Sénégal, à Dakar, j'ai senti qu'il ne convenait pas de faire ce pour quoi j'avais été envoyé, c'est-à-dire de l'ethnologie traditionnelle. C'est-à-dire montrer comment les civilisations africaines sont vraiment des civilisations, ce qui est vrai. Mais y avait-il besoin d'insister sur ce point ? Mais je me suis senti au contraire atterré par le fait que tout commençait à bouger, qu'il y avait déjà des grondements, n'est-ce pas, à Dakar et ailleurs, qui disaient, bon, ça suffit, il faut quand même que maintenant, on rejoigne notre histoire et on rejoigne ce qui est notre possibilité de liberté.
Les propos de Georges Balandier disparus hier, des propos très riches. Tout d'abord, on reconnaît une forme de tradition en France avec le départ au moment donc de l'invasion nazie, le départ d'un certain nombre de penseurs et d'enseignants en sciences humaines. On songe à Lévi-Strauss également. Et puis le rapport à l'écriture qui était très important pour Georges Balandier, Marc Auger.
Oui, oui, bien sûr. Et de ce point de vue, il est dans la tradition la plus brillante de l'anthropologie en France. Afrique ambiguë a été une œuvre littéraire. Le sens des autres aussi. L'histoire d'autres aussi, je veux dire. Balandier, en effet, a été résistant et il s'est senti, comme il le dit, un peu écœuré par l'ensemble de l'histoire précédente. Et en Afrique, c'est sans doute ce qui le rend peut-être sensible particulièrement à tout ce qui bouge. Et je dois dire que pour nous, j'ai été élève de Balandier, c'était quelque chose d'intéressant d'être à la fois de penser à faire de l'africanisme, on débarquait là-dedans, et de sentir qu'il y avait quelque chose d'autre que la tradition. Et je crois que pour les gens de ma génération qui étions à la fois soucieux de faire quelque chose et d'étudier. L'exemple de Balandier a été très porteur. Très porteur. Parce que il nous encourageait à ne pas faire des études irréelles ou je ne sais quelle, dans je ne sais quelle empirée. Et non, il fallait faire de l'histoire, il fallait que s'intéresser à l'actualité et au mouvement. Et tout en gardant la dimension anthropologique, c'est cela.
Mais avec une dimension assez personnelle, parce que vous avez cité Histoire d'Aude, qui est un ouvrage qu'il a publié en 1977, qui est un très beau livre. Mmh. Et j'en ai d'ailleurs noté un extrait, je vais le lire. « Ma présentation de moi-même, écrivait-il, est une autobiogéographie. Elle m'impose les questions auxquelles mes premiers livres tentaient déjà de répondre. Pourquoi court-on le monde pour échapper à soi-même ou pour fuir quelque chose, quelque lieu ?» Quelqu'un, il y a finalement une dimension assez autobiographique dans cette décision de devenir oui. anthropologue, parce que finalement, on échappe pas seulement au nazisme dans son cas, oui. on échappe aussi à une forme de vie, peut-être à une forme de mélancolie aussi pour Georges
oui,
Balandier.
Peut-être, en effet. Je crois que Lévi-Strauss a écrit quelque chose sur le métier d'ethnologue en disant que c'était l'un des métiers, où, comme les mathématiques, où il fallait une vocation. Et au fond, il parlait de la vocation de la solitude, presque. La vocation de la solitude, c'est-à-dire que l'anthropologue se sort de son milieu, il est donc hors de culture, et il n'est pas encore entré dans la culture des autres. Il y a donc un entre-deux qui est auquel il peut se complaire, d'ailleurs, parce que c'est une forme de solitude qui peut se nourrir de la rencontre et des rencontres. Et je crois que de chez Balandier, il y avait de cela, oui.
Il y a une tradition, donc, effectivement, d'aller vers l'autre. Vous parlez de solitude, ça c'est le destin individuel. Au niveau collectif, l'œuvre de Balandier est une œuvre qui a une signification politique importante, Marc Auger.
Ah oui, bien sûr, parce que il est en rupture avec l'idéologie coloniale, ça, incontestablement, et ça commande tout. Il faut avoir vécu dans les années, même après les indépendances, pour sentir ce que représentait le poids critique de la sociologie de Balandier. Parce que la mentalité des coloniaux ou ex-coloniaux pouvait faire des dégâts. Et en promouvant l'étude des réactions à la colonisation, ce qu'il a fait à travers l'étude des syncrétismes, des messianismes, etc., il plaçait l'accent sur le cœur même du terrain anthropologique.
Peut-être également pour mieux expliquer en quoi il marquait une rupture, il faut se souvenir des autres anthropologues ou ethnologues qui l'ont précédé, avec une tradition en France dans les années 30-40, où on analysait les mentalités prélogiques, où on parlait non pas des autres cultures ou des autres civilisations, mais des primitifs.
Oui, bien sûr. Alors c'est un langage qui n'est plus de mise lorsque Balandier s'exprime. Mais c'est vrai que des ethnologues africanistes qui ont fait de beaux travaux, mais étaient souvent obnubilés par la culture comme un ensemble inamovible, et apprenaient des photographies en quelque sorte fixes, alors que Balandier a fait faire du mouvement. Nous avons une idée des Dogons à travers les œuvres de Germaine Dieterlin, par exemple. Et nous voyons bien que c'est pour intéressantes qu'elles soient, ces études ignorent délibérément, je crois, un certain environnement.
Il a également consacré une étude en 1952 au pêcheur le bout du Sénégal. C'était avec Pierre Mercier, il écrivait « La spécialisation qui a fait d'eux les meilleurs pêcheurs de la côte occidentale n'a fait que renforcer leur cohésion de société bien distincte et originale. » C'est-à-dire qu'il essayait de relier un mode de vie au niveau quasiment individuel avec une culture globale. Et ça, c'était effectivement la réussite de son anthropologie. On écoute une dernière fois la voix de Georges Balandier qui parle de la scénographie du pouvoir et de la violence qu'elle provoque. C'était en 2010.
personnellement, j'ai toujours été frappé par la proximité que j'ai pu avoir à un certain moment, surtout en Afrique d'ailleurs, parce que beaucoup de mes anciens étudiants sont devenus responsables pour le meilleur ou pour le pire, c'est selon, de pouvoir élevé, de pouvoir éminent. Mais j'ai pu observer à quel point il n'y a pas simplement le jeu des intérêts, mais il y a la scénographie, il y a la mise en vedette de ce que le pouvoir exige pour pouvoir être assumé. Hein? Ça n'est pas... Le pouvoir n'est pas la violence pure. Il y recourt, mais il n'est pas la pure violence. Il est l'effet produit par sa scénographie, par sa mise en scène. Et les grands politiques sont des comédiens, d'une certaine manière.
Alors ça, c'est un extrait qui vous va droit au cœur, Marc Auger, parce que vous aussi, vous avez étudié le pouvoir et vous avez beaucoup réfléchi à cette question. Est-ce qu'il y a des conclusions à en tirer ou des enseignements à en tirer pour la période actuelle ?
Certainement. Des enseignements, je ne sais pas, mais des exemples, on peut en trouver. Le pouvoir sur scène de Babelandier, effectivement, était sensible à cet aspect des choses. Et en ce sens, il faisait une anthropologie, une sociologie qui dépassait le cadre africain. Et je crois qu'en effet, si nous regardons les jeux de la démocratie actuelle en Europe, et particulièrement en France, on voit bien ce jeu de mise en scène et de posture. Je suis sensible au fait que les primaires, par exemple, les primaires, c'est le summum de la personnalisation liée au pouvoir présidentiel, puisque des gens qui sont sur une même ligne politique globalement s'affrontent. Et qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde la manière dont il s'exprime, la manière dont il suggère, la manière dont il s'impose. Et il y a une sorte de combat qui peut apparaître d'ailleurs parfois tragique et parfois dérisoire, mais qui est une lutte d'homme à homme.
Mais alors comment fait-on justement pour faire de l'anthropologie ou de l'ethnologie d'une société qu'on connaît bien, la sienne ? Vous l'avez fait puisque vous avez notamment consacré un ouvrage au métro. Vous avez fait, vous aussi, Marc Auger, de l'anthropologie du proche. Comment y parvient-on ?
Eh bien, je crois que, en fait, c'est en étant vraiment anthropologue, c'est-à-dire en considérant qu'il n'y a pas des terrains différents les uns des autres. Et je crois que l'autre commence à sa porte, n'est-ce pas ? Et si on ne réduit pas l'autre à un aspect culturel marqué, on peut regarder toutes les réalités sociales d'un œil d'anthropologue.
Merci beaucoup, Marc Auger, d'avoir évoqué la mémoire de Georges Balandier qui nous a quittés hier à l'âge de 95 ans. Si les auditeurs souhaitent lire du Georges Balandier, peut-être leur conseiller de commencer par Histoire d'autres, qui est donc l'ouvrage qu'il a publié en 1977, qui est un peu son triste tropique à lui, qui est aussi une manière de redécouvrir une page de l'histoire des sciences sociales où celle-ci était en quelque sorte triomphante et peut-être plus conquérante qu'aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé de lui. À 8h20, on évoquera une autre manière de quitter la France, celle de Guy Sorman, une vision beaucoup plus politique et économique de cette décision de quitter le territoire. En attendant, il est 8h sur France Culture.